Nous prions. Merci Père pour ta parole. Merci pour ta parole qui, même si elle peut paraître dure, est là pour nous conduire à la vie. Et je te prie que tu nous touches au travers de cette parole, tu nous enseignes, tu nous apprennes à nous attacher davantage à toi, à davantage être semblable à Christ. On te remet tous ces moments et je te prie que tu me guides aussi. Prions que tu me guides pour bien présenter ce texte. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci. Le texte d'aujourd'hui dans Jérémie, c'est un texte qui est assez intense. Le langage, il est très fort. Et d'une certaine manière, quand il y a des événements graves, on discerne plus facilement ce qui compte le plus. Imaginez, il y a votre maison qui prend feu. Quelle est la première chose dont vous vous préoccupez? Est-ce que c'est sauver votre téléphone, sauver votre ordinateur, sauver votre chat, ou est-ce que c'est sauver peut-être votre conjoint, votre enfant, votre ami? Alors, j'espère qu'on peut arriver à la conclusion que c'est les personnes qui ont de la valeur. C'est les personnes qui ont de la valeur. Et quand les personnes sont atteintes, c'est particulièrement grave. On pense aux attentats dont Steve a parlé à un instant. Ils sont des événements durs. Et dans ce texte, c'est donc pour ça que c'est intense. C'est intense parce que ça parle de ce qui est dur dans les relations, dans les relations en général. Parmi les pires épreuves qu'une personne peut traverser, c'est vraiment malheureux, il y a la mort d'un proche. La mort d'un proche, c'est particulièrement difficile et lourd. C'est dur de faire face à la séparation d'une personne que l'on aime, c'est une expérience horrible. Une autre expérience horrible qui peut arriver, c'est celle d'être trompé par un conjoint. Ça peut être particulièrement dur. Et si je parle de ça, pour commencer, ce qui peut paraître super intense, c'est parce que c'est ce qu'on voit dans le texte. On voit dans le texte ces deux choses. À la fois la mort et la trahison. À la fois, on peut voir le texte, c'est un mélange d'une tempête d'émotions. Il y a des émotions fortes dans différentes directions. À la fois de la rage, à la fois de la colère, et à la fois de la tristesse. Une tristesse lourde qui ne peut être étanchée. Et voilà, donc on va rentrer dedans. Avant de rentrer dedans, je pense que c'est important de bien se rappeler du contexte de ce texte. Ce texte sont les paroles de Dieu à son prophète Jérémie, qui lui donne des paroles pour son peuple Israël. Ces événements se passent en l'an 600 avant Jésus-Christ. Ce qui s'était passé, c'était que Dieu s'était choisi un peuple du milieu de l'humanité qui le rejetait. Il avait délivré ce peuple d'Égypte où ils étaient esclaves. Il leur avait donné un pays. Il avait fait alliance avec ce peuple. Il serait leur Dieu. Ils seraient son peuple. Ainsi, on voit qu'il y avait une relation d'alliance entre les deux. Le peuple s'était engagé à suivre Dieu, à l'écouter, à vivre d'une manière qui lui plaise, et Dieu s'était engagé à prendre soin d'eux et les bénir. Cependant, Israël s'était laissé aller à ses mauvais désirs. Ils avaient été adultères envers Dieu. Ils s'étaient mis à adorer des idoles, des faux dieux, à faire preuve d'infidélité et de méchanceté les uns envers les autres. On voit un peu plus tôt, pour nous rappeler les semaines précédentes, au chapitre 3, verset 20, Dieu disait, je prends dans la Bible, chapitre 3, verset 20, c'est juste un verset, donc vous n'êtes pas obligé de prendre. Pourtant, tout comme une femme trahit son compagnon, vous m'avez trahi, communauté d'Israël, déclare l'Éternel. Ou encore, au chapitre 2, verset 25, alors que Dieu avertissait son peuple par rapport aux conséquences de son abandon, le peuple lui répondait avec méchanceté. Si je lis chapitre 2, verset 25. Arrête-toi avant de finir pieds nus, avant que ta gorge ne se dessèche. Mais tu dis, rien à faire, non, j'aime les étrangers, je veux courir après eux. Ainsi, on voit que ça, cette situation, ça provoque la colère de Dieu, une colère ardente, le jugement de Dieu. Dieu ne peut supporter le mal, il ne pouvait pas supporter le mal de voir ce mal dans cette situation. Et donc, il y a un jugement terrible qui s'apprête à tomber sur eux. Ce jugement, il va se manifester par, de leur invasion de leur pays, leur destruction, leur déportation, un peuple étranger qui les attaquerait, des événements qui se sont réellement produits dans l'histoire. Dieu appelle donc son peuple à changer d'attitude. Il dit, mais changez ! Mais son peuple, qu'est-ce qu'il fait ? Il persévère dans son mal. On voit, ils sont têtus. Ils sont têtus. Et donc, c'est là qu'on en est. C'est là qu'on en est aujourd'hui dans la lecture. Le peuple, il ne veut pas écouter Dieu. Et donc, Dieu, il insiste. Il est obligé d'utiliser des images fortes pour les avertir. Si on voit chapitre 9, verset 21, il y a des versets qui sont particulièrement forts. 9, verset 21, annonce. Voici ce que déclare l'Éternel. Les cadavres des hommes tomberont comme du fumier dans les champs, comme les épis qui tombent derrière le moissonneur, que personne ne ramasse. Ces images sont particulièrement fortes, particulièrement choquantes. Et dans un sens, c'est comme quand on voit des images chocs sur les paquets de cigarettes. Vous voyez les images chocs avec des images horribles comme ça. Ça sert à quoi ? Ça sert à choquer la sensibilité des fumeurs, pour qu'ils se disent « Mais non, arrêtez, ça va mal fonctionner, fumez-tu » Et de même, ici Dieu veut réveiller son peuple. Il veut le réveiller. Pourtant, ils ne veulent pas revenir à lui. Ils ne veulent pas. Dieu avertit, mais son peuple ne revient pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Et ce sera le premier point de ce qu'on va voir aujourd'hui. Dieu en devient même perplexe. Pourquoi ne reviennent-ils pas à lui ? Pourquoi ? Donc si nous lisons dans le texte, à partir du verset 4, quelques versets. Annonce-leur, voici ce que dit l'Éternel. Est-ce qu'on tombe sans se relever ? Ou est-ce qu'on se perd sans revenir en arrière ? Pourquoi donc cette population de Jérusalem s'abandonne-t-elle à de perpétuels égarements ? Ils renforcent leur trahison et ils refusent de revenir à moi. L'image d'une personne qui tombe et qui se relève, ça nous paraît naturel. Quand on tombe, on se relève, on ne reste pas par terre. Pourquoi donc le peuple ne se relève-t-il pas ? Eh bien, c'est parce que dans leur perspective, ils ne sont pas tombés. Dans leur perspective, ils ne sont pas tombés. Si je ne suis pas tombé, je n'ai pas besoin de me relever. Si je ne me suis pas trompé de chemin, je n'ai pas besoin de faire demi-tour. Si tout va bien, pourquoi changer ? Ils gardent cette perspective de se dire « Mais non, ça va !» À partir du chapitre 8, verset 6, « Je suis attentif, j'écoute, il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne regrette sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Dans leur mal, ils ne voyaient pas qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pour eux, non, ça allait bien. Début du verset 8, toujours dans le chapitre 8. « Comment pouvez-vous prétendre ? Nous sommes sages, puisque la joie de l'Éternel est avec nous. » Dans leur perspective encore, ils se croient sages. Ils se disent que, ayant reçu des bénédictions de la part de Dieu, la loi de Dieu, ils étaient bons. Alors qu'en réalité, ils le rejetaient ouvertement. Ils étaient complètement hypocrites. Verset 11. On voit encore cette même situation sous un autre angle. Les prophètes et les prêtres les versent d'illusions. Si on lit ça, verset 11. « Ils remédient superficiellement au désastre de la fille de mon peuple. Tout va bien, disent-ils, mais rien ne va. » Et je pense que, pour illustrer cette situation, je pense que ça peut aider de s'imaginer ça dans nos relations humaines. Imaginez, vous êtes avec quelqu'un, la personne vous a trompé, et puis elle vient vous voir et elle vous dit « Mais tout va bien, je suis avec toi, j'habite avec toi. » Et non, ça va pas. Ce sentiment de colère, c'est ce que Dieu ressent. Ainsi, le peuple est même plus capable d'éprouver de la honte. On voit ça verset 12. « Ils devraient être couverts de honte parce qu'ils ont commis des horreurs, mais ils ne rougissent même pas, ils ne connaissent même pas la honte. » Cette insensibilité est due à leur vaine sagesse qu'ils ont de croire que ça va. C'est ce qui caractérise le peuple. Ils se croient sages, que le monde va bien, ils vivent dans une euphorie du présent, à se dire que jusqu'ici ça va, alors qu'ils commettent des horreurs. Encore une image choquante, mais qui me semble représenter le texte. Imaginez un homme qui aurait commis un adultère, et sa femme ne le saurait pas, et il se dirait, bah, jusqu'ici, ça va. Ça va, je m'en sors plutôt bien, ma vie est plutôt cool. Non, c'est horrible. C'est horrible. Ils ont commis des horreurs, mais ils n'en rougissent pas. Apparemment, tant qu'ils n'étaient pas frappés, tant qu'ils ne subissaient pas le jugement de Dieu, ben, ils se sentaient intelligents et sages. Ils s'aveuglent eux-mêmes par leur soif de profit. Toujours chapitre 8, verset 10. Nous voyons ça au milieu du verset. Oui, du plus petit au plus grand. Tous sont assoiffés de profit. Donc leur soif de profit, c'est ce qui les caractérise. Toujours plus. Ils sont pris dans leur orgueil. Chacun à suivre ses plaisirs plutôt que ce qui est bon. Ils sont devenus amis des plaisirs plutôt que amis de Dieu. Au début du chapitre 9, on voit un autre aspect de la chose. Début du chapitre 9, on voit que leur trahison, elle se répand à toucher d'autres personnes, à toucher les autres relations. Pas seulement les relations envers Dieu, mais aussi envers les uns les autres. On voit ça à verset 7, si on lit ça à partir du verset 7. Leur langue est une flèche meurtrière. Ils ne parlent que pour trahir. De la bouche, ils disent que tout va bien à leur prochain, mais intérieurement, ils lui tendent un piège. Donc leur trahison, elle était d'abord envers Dieu, mais elle s'étendait maintenant, peu à peu, envers les uns les autres. Il y a une destruction des valeurs sociales. Face à tout ça, face à toute cette arrogance, face à cette stupidité, cette vaine sagesse, cette méchanceté, qu'est-ce que Dieu pouvait bien faire ? Qu'est-ce que Dieu pouvait bien faire ? On peut se poser la question. Et Dieu pose aussi la question. Si on voit chapitre 9, verset 8, « N'interviendrai-je pas contre un tel comportement ? Déclare l'Éternel. Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation ?» Cette juste réaction de Dieu, c'est d'intervenir, de punir son peuple. Il ne peut pas laisser le mal éternellement impuni. Il ne peut pas rester insensible face à tout ça. Non. Il faut qu'il y ait des conséquences à un moment. Le jugement s'exécutera. Et dans ce texte, il présente donc le jugement clairement, très sévèrement. Il en parle dans un sens, et on comprend dans un sens la colère de Dieu. On comprend la colère de Dieu en vertu de ce que le peuple lui a fait. Chapitre 9, verset 15. Je les disperserai parmi des nations inconnues, aussi bien d'eux que de leurs ancêtres. J'enverrai l'épée à leur poursuite, jusqu'à leur extermination. C'est très fort. Cette colère, elle est intense, elle est destructrice. Dans cette situation, quel aurait été le bon sens du peuple ? Quel aurait été le bon sens du peuple ? Est-ce que ça aurait été de se dire, c'est pas grave, on va juste continuer comme on fait, jusqu'à qu'on meure ? Non ! Non, le bon sens, ça aurait été de changer d'attitude, de regretter son mal, d'implorer le pardon de Dieu pour obtenir la vie, de réaliser leur faute, sa gravité, la destruction qu'elle entraîne, d'être rempli de honte, de sensibilité, de réaliser que non, c'était grave ce qui se passait. Et là, c'est également la conclusion à laquelle arrive notre texte. C'est ça le bon sens. Au chapitre 9, au verset 16, on voit un appel à la sensibilité. Chapitre 9, verset 16. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Comprenez ce qui se passe. Appelez les pleureuses et qu'elles viennent. Non, il y a un appel à réagir, à être sensible. Et puis, pour terminer, dans la conclusion de notre texte, chapitre 9, verset 22. Si on lit versets 22 et 23, voici ce que dit l'Éternel. Que le sage ne se montre pas fier de la sagesse. Que le fort ne se montre pas fier de notre force. Que le riche ne se montre pas fier de sa richesse. Mais celui qui veut éprouver de la fierté, mette sa fierté dans ceci. Le fait d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. Laissez tomber vos illusions. Laissez tomber vos illusions. Comprenez la situation. Revenez à moi. Voilà ce que dit le texte en quelques mots, en conclusion. La vraie sagesse, c'est ça. C'est revenir vers Dieu. Ils auraient dû changer d'attitude. Que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse. Non, leur sagesse était vaine. Ils devaient réaliser que c'était pas sage. Que le fort ne se montre pas fier de leur force. Ils devaient réaliser que face au jugement de Dieu, ben non, leur force servait à rien. Que le riche ne se montre pas fier de leur richesse. Ils étaient pathétiques à s'attacher à des choses plutôt que de vouloir aimer Dieu. Le jugement de Dieu allait s'abattre sur eux, non, ils garderaient rien. Donc la seule chose qui avait de la valeur, c'était quoi? C'était de réaliser sa situation, réaliser leur situation et revenir à Dieu. Donc ça, c'était la vraie sagesse, le vrai bon sens. Dieu les invitait à revenir à lui, pas parce que ben, il n'y avait pas d'espoir, mais parce que justement, s'ils revenaient à lui, il serait prêt à pardonner, à accueillir avec bienveillance son peuple s'ils revenaient à lui. Et on peut réfléchir à ça encore là. S'il continue à leur parler, s'il est toujours là, s'il les a toujours pas frappés, c'est parce que il veut toujours leur donner une chance. Donc voilà ce que présente le texte. Comment est-ce que cela s'applique à nous aujourd'hui? Comment est-ce que ça nous parle aujourd'hui? Nous, on n'est pas le peuple d'Israël. On n'a pas commis les mêmes péchés. On n'a pas fait d'alliance avec Dieu de la même manière. Donc dans un sens, oui, enfin, on ne peut pas nous appliquer le texte juste comme ça. Cependant, le texte, il peut quand même nous être familier. Car ça nous enseigne sur deux différentes choses, sur la nature humaine et sur la réaction de Dieu face à celle-ci. Et ces deux choses-là, elles sont encore les mêmes aujourd'hui. Donc assez simplement, on peut faire le parallèle avec nous aujourd'hui. Là, ce texte adressé à Israël. Il y a des textes plus tard qui s'adressent au monde entier. Et dans la Bible, il nous est présenté que Dieu est créateur de tous. Dans ce texte même, il est présenté au chapitre 9, verset 16. Chapitre 9, verset 16. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Dieu, et peut-être il avait fait une alliance avec Israël, mais au fond, il était aussi le Dieu de l'univers. Et donc, chacun est redevable envers lui pour ses œuvres. D'une certaine manière, tout le monde devrait vivre d'une manière qui lui plaît et qui l'honore. C'est son monde, ça paraît très normal. Mais selon le bien. Plus tard dans la lettre à... Désolé, la transition n'est pas claire du tout. Plus tard dans la lettre à Romains, on voit l'apôtre Paul qui étend cette même situation qui est avec le peuple envers tout le monde. Donc on va lire ce texte dans l'épître aux Romains, si vous voulez prendre, ce sera juste quelques versets, mais c'est un peu plus loin dans la Bible, page 732, donc il y a un envoyé de Jésus qui s'appelle Paul, qui est un apôtre qui témoigne du message de Jésus et envers le monde entier. Voilà ce qu'il dit à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui tiennent la vérité prisonnière. De même que dans notre texte, la Bible présente que les hommes ont une tendance à détourner les yeux. Ils détournent les yeux de la vérité. Dans leur injustice, ils tiennent la vérité prisonnière. Puis si je continue dans les versets suivants, donc toujours dans Romains, chapitre 1, verset 19 cette fois. « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. » Ils ne lui ont pas montré, de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement. Dans leur cœur sans intelligence, ils ont été plongés dans les ténèbres. Donc ainsi, on voit que cette description qu'on voyait finalement vis-à-vis du peuple d'Israël, elle touche aussi plus ou moins tout le monde. Elle touche tout le monde. Par le monde que Dieu a créé, Dieu déclare qu'il y aurait suffisamment d'éléments pour que on puisse remarquer que, ben voilà, il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus, qu'il y a la grandeur, enfin, sa grandeur, par sa puissance, par la bonté de Dieu, sa générosité, tout ça, c'est des choses qu'on peut voir au travers du monde. Et donc, d'une certaine manière, à partir de ça, on devrait être appelé à vouloir vivre d'une manière qui lui plaise et qui l'honore. Pour autant, il nous est dit que l'humanité a rejeté ça. Elle a décidé que, ben, non. Ils allaient plutôt suivre leur propre raisonnement, suivre leur plaisir pour le monde, leur plaisir pour les choses, plutôt que pour Dieu. Et puis, si on continue vers le dernier verset dans ce texte, verset 22, « Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. » Donc, le constat qu'on voyait dans le texte de Jérémie, le fait que, ben, voilà, il y avait une vaine sagesse à vouloir trahir Dieu, à s'endurcir par son orgueil, avoir un aveuglement volontaire, cet endurcissement de ne pas rougir de son mal. Et bien finalement, ça, on voit que ça s'étend à l'humanité tout entière. C'est pas que les Juifs, que les Israélites étaient particulièrement plus mauvais que les autres. Non. On peut pas dire, ah ben non, nous on est meilleurs que eux. Non, d'une certaine manière, c'est manière générale. Tout le monde agit ainsi. Et ainsi, ben, cette chose, ça se manifeste par, de le même que dans le texte, ça se découlait, ça se manifeste par toutes sortes de destructions dans les liens sociaux qu'on peut observer encore aujourd'hui. On peut observer ça dans les mensonges publicitaires, dans les riches qui explosent les pauvres, encore quelque chose de bien pertinent, les gens qui, voilà, peut-être les politiciens qui manipulent les foules à leur intérêt. Le manque de respect envers les personnes, les violences, les problèmes qu'on voit dans les couples, toutes ces choses, tout ça qui témoigne du problème plus grand qu'a l'humain envers son Créateur. Et donc de même que Dieu était en colère face à son peuple, car il l'avait trahi et leur mal, et que ça avait entraîné son jugement, bah de même, Dieu est peiné. Il est dérangé par le mal de l'humanité. Il est en colère contre ça. Face au rejet qu'il y a de lui, face à la méchanceté des humains les uns envers les autres. Et comme présenté dans le texte, de la même manière, ça provoquera à un moment ou à un autre un jugement. Dieu annonce qu'un jour viendra un jugement. Et il demandera à chacun de rendre des comptes pour lui-même. Chacun devra rendre des comptes de comment est-ce qu'il aura vécu sa vie. Ce sera un jugement terrible. Et il y a différents éléments qui nous permettent déjà de saisir que dans le monde, ça ne va pas. Parmi ces différents éléments, un élément qui est très présent dans notre texte et qui est encore présent aujourd'hui, c'est la mort. La mort. La mort qui est un signe que dans le monde, non, les choses ne vont pas. Ça témoigne d'une relation brisée avec Dieu et Dieu qui utilise ça pour nous réveiller. Nous réveiller que non, ça ne va pas. Ainsi, chacun, qui qu'on soit, est appelé à faire preuve de sagesse. Et la Bible dit, non, Dieu dit clairement, revenez à moi, faire preuve de sagesse, à réaliser que, on peut avoir tort, on peut être contre Dieu, on peut être pire que ce qu'on imaginait. Et arrêter de se croire sage, réaliser qu'en fait, on n'est peut-être pas si sage, et revenir vers Dieu. Dieu, il n'est pas le Dieu d'Israël. Il n'est plus seulement le Dieu d'Israël. Par Jésus-Christ, c'est très clair, Dieu il ouvre les bras grands ouverts pour quiconque vient à lui, peu importe qui on est, peu importe notre nationalité. Par Jésus-Christ, Dieu dit au monde, non, ne restez pas endurcis, soyez sensés, revenez à moi. Comment est-ce que ça impacte notre vision du monde? Comment est-ce que ça impacte notre vision du monde de savoir tout ça? Comment est-ce que ça aussi impacte nos actions? Ça fait réaliser que, au cas où on ne l'aurait pas chacun remarqué, ça fait réaliser que dans notre société, on peut avoir naturellement un biais à éviter certaines choses, à ne pas penser à certaines choses fondamentales. On n'aime pas trop regarder les choses difficiles de la vie, ça paraît normal. Parfois nos responsabilités qui sont dures, notre manque de valeur, tout ça, c'est des choses auxquelles on peut être sensible, de s'exposer, de faire face à la culpabilité, de faire face aussi plus loin à la mort, à la réalité de cette réalité qui est si dure, d'une fin implacable, désignée par Dieu. Et donc on préfère se concentrer sur ce qui est peut-être plus léger, sur peut-être sur le divertissement, sur ce qui nous distrait, sur peut-être notre travail, peut-être sur notre famille, sur tout plein de choses qui peuvent être très bons, qui sont très bons. Et dans un sens, en se focalisant sur ces choses, on peut risquer le risque de se dire, mais okay, tout n'est peut-être pas parfait, on ne va peut-être pas être aussi loin que les prophètes et les prêtres dans ce texte, à dire, tout va bien, tout va bien. Mais au fond, on se dit, non, mais ça va, ça va, ça va, ça va. Alors que la réalité de la séparation de Dieu, de la mort, la réalité de ça qui signale clairement qu'il y a un jugement de Dieu qui vient, eh bien, on ne préfère pas trop y penser, on se dit, non. Peut-être que je serais plus heureux si j'y pensais pas trop. On préfère d'une certaine manière un peu s'enfuir la tête dans le sable et se dire que ça va. C'est plus facile de penser à des choses légères. Peut-être, je donne des exemples un peu plus concrets, un soir en semaine, ça peut être tellement plus facile de passer du temps à juste regarder un film fun plutôt que de se poser pour réfléchir à des questions difficiles comme celle-ci, à nos fautes, réfléchir au monde qui va pas, à réfléchir au monde qui souffre de sa séparation de Dieu, de peut-être passer du temps pour prier pour cela, de prier pour ceux qui aussi sont loin de Dieu, et ultimement, s'ils reviennent pas à lui, subiront son jugement. Est-ce qu'on ose être touché par cela? Ou est-ce qu'on se réfugie dans les choses où on se dit, non, ça va, c'est pas parfait, mais ça va. Et on vit d'une certaine manière un peu comme si, réellement, ça allait bien. On peut se concentrer peut-être sur des petites choses qui sont vraiment pas mauvaises en soi. On peut juste, se concentrer tout le temps sur, peut-être regarder un tuto de cuisine, après regarder un autre truc, et c'est bien. C'est bien, alors que derrière, est-ce qu'on devrait pas faire plus de sensibilité par rapport à ça? Par rapport à cette situation? Est-ce qu'on risque pas de tomber dans cette même situation que le peuple, de vouloir vivre dans le déni? Si? Est-ce qu'on ne fait pas preuve de plus de sensibilité envers ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent loin de lui et qui ultimement se dirigent vers un jugement? C'est terrible. C'est terrible. Et justement parce que c'est terrible, parfois on préfère ne pas trop y penser. Et moi, honnêtement, ça m'arrive souvent de ne pas vouloir y penser. Dans des conversations avec les gens qui nous entourent. C'est tellement plus facile aussi de parler, se dire ça va, et de parler que de sujets légers, de parler peut-être des résultats du match de foot, de parler de plein de sujets comme ça qui peuvent être assez simplistes, assez légers, mais on n'est pas engagé, on n'a pas de vulnérabilité. Et puis on ne réfléchit pas non plus à des questions plus graves et plus profondes, qui peuvent être telles que la mort, le jugement de Dieu qu'on voit dans ce texte. Est-ce qu'on est sensible à ça dans nos conversations? Est-ce qu'on parle de sujets sérieux, profonds? Est-ce qu'on s'intéresse à ce que notre prochain pense par rapport à ça? Est-ce que les autres pensent par rapport à ça? Comment est-ce qu'il faut faire face? Et vont évoquer le sujet. Osons au moins évoquer le sujet. On ne peut pas dire aux gens de forcément penser comme nous. Chacun est libre de penser comme il veut. Mais est-ce qu'on vit dans une certaine superficialité? Est-ce qu'on pense, est-ce que ce besoin de réconciliation avec Dieu pèse dans nos cœurs? Encore une fois, c'est pas mal, c'est pas mauvais de parler de choses fun, de s'amuser, de profiter de tout ce que Dieu a créé. Dieu a créé toutes bonnes choses pour que nous en jouissions, et c'est bon, Dieu aime aussi ces choses, Dieu les a créées à la base, c'est très bien. Mais si ces choses constituent toute notre vie, alors clairement, il y a un moment où il faut se poser la question, est-ce qu'on ne vit pas dans le déni? Est-ce qu'on n'est pas sensible à ces questions? Dernièrement, il y avait un podcast que j'ai écouté, qui était un podcast de quelqu'un qui s'appelle Guillaume Play, c'est le podcast Légende, je ne sais pas si vous l'entendez. Dedans, il y avait deux personnes catholiques qui avaient écrit un livre sur l'existence de Dieu, Et l'intervieweur leur disait, mais pourquoi est-ce que vous pensez que c'est intéressant de se poser la question sur l'existence de Dieu? Et le gars, il répondait, moi, il me semblait beaucoup de bon sens, il répondait, ben, moi, je pense que quand même, enfin, la question face à la mort, est-ce que la vie a plus que ça? C'est une question importante. Et je pense que, il disait ça, je pense que c'est ces mots, exact, je sais que vous me rappelez bien. Il disait, moi, je pense que toute personne saine d'esprit devrait au moins se poser la question sérieusement une fois dans sa vie. Parce que franchement, je ne comprends pas. Quelqu'un qui ne voudrait pas réfléchir au moins sérieusement à ces questions une fois dans sa vie, ça me semble être quelqu'un de bizarre. C'est lui qui le disait. Et moi, d'une certaine manière, je peux être, oui, c'est d'accord. Chacun peut arriver à des conclusions. Mais réfléchissons. Soyons sensibles. Soyons sensibles. Face à... Donc l'appel de ce texte, c'est que, voilà, c'est dans les fois où c'est tellement plus facile de se dire « ça va ». Ça va, plutôt que de vouloir faire face à notre culpabilité, à nos fautes, à nos souffrances, au jugement de Dieu, à la mort, à ces questions, de se dire que peut-être finalement les choses vont pas si bien. L'appel du texte d'aujourd'hui, il est de se laisser alerter, se laisser sensibiliser et s'éveiller à la réalité que notre monde qui est brisé, à faire face à la réalité des fausses perceptions qu'on peut avoir. On peut avoir de fausses perceptions, on peut se tromper, on peut avoir tort. On peut avoir des biais qui font que ben on veut pas vraiment regarder les choses en face. Et je dirais que ces biais sont particulièrement forts par rapport à la réalité du jugement, quand ça touche à notre culpabilité, quand on peut être vite dans le déni. Et ces choses, un jour, devront faire face à chacun. On a vu ce qu'était la vraie sagesse, donc se confier en Dieu. Mais pour être honnête, on est têtu. On est têtu. Et même sachant ça, on peut vouloir se dire « Non, mais je vais l'ignorer. » Même si égoïstement, ça aurait été une bonne chose pour le peuple de suivre Dieu. Dieu s'engageait à les bénir s'ils obéissaient. C'était tout bénef. Eh bien, quand même, ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Et donc, je vous invite à passer à un troisième point. Troisième et dernier point. Où on va méditer sur qui est Dieu. Qui est Dieu? La sagesse serait de revenir à lui, mais alors, qui est-il? Dieu, ce qu'on va voir, c'est que c'est un Dieu de compassion, de miséricorde, de bonté, généreux, qui est prêt à pardonner ceux qui reviennent à lui. Au verset 23 de ce texte, chapitre 9, verset 23, je suis un peu perdu dans la... Deuxième partie, il nous dit... Enfin, chapitre 9, verset 23, à la fin de ce verset, il nous est dit « En effet, c'est moi l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. » Ici, on voit que Dieu est un Dieu qui aime la bonté, qui aime la justice, qui aime le droit. Il y trouve du plaisir. Ce n'est pas un Dieu qui est cruel. C'est un Dieu qui exerce le droit, la justice, mais aussi la bonté. La bonté, c'est à cela qu'il prend plaisir. Il est rempli d'amour. Vous me direz peut-être, bah, dans ce texte, où voit-on cela? On voit que ça parle beaucoup de jugement, beaucoup de colère de Dieu. C'est juste, ils l'ont mérité, mais je ne vois pas trop d'amour. Bah, si on regarde bien, on voit que certes, il y a la colère, mais il y a aussi énormément de compassion. Donc on va regarder ça maintenant. Dieu n'est pas seulement fâché, comme un conjoint qui aurait été trompé. Il pleure également. Il pleure également comme une personne qui est sur le point de perdre un proche. Verset 18 du chapitre 8, on voit, « Je voudrais soulager ma douleur. La souffrance de mon cœur me pèse. » Certains diront que c'est les paroles du prophète. Dieu, lui, il est insensible. Mais non, dans le texte, ce qu'on voit, c'est que c'est très flou. Quand est-ce que c'est Dieu qui parle? Il y a des propos où moi, je pourrais vraiment argumenter que clairement, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Ainsi, ben, plus loin, verset 21, on voit « Je suis brisé à cause du désastre qui touche la fille de mon peuple. » Je suis dans le deuil, l'affolement s'est emparé de moi. C'est des paroles très fortes. Et bien sûr, dans un sens, on pourrait dire littéralement, Dieu ne peut pas être brisé. Mais quand même, c'est des images très fortes. Dieu qui souffre pour son peuple. Chapitre 8, verset 23, on voit « Si seulement ma tête était remplie d'eau, mes yeux une source de larmes, je pourrais pleurer jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. » Verset suivant, ça commence de la même manière, et donc on voit que c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle, c'est pas juste le prophète qui est sensible. Non, Dieu est sensible. Dieu pleure pour son peuple. Dieu se présente donc dans une immense tristesse. Et on remarque aussi sa douceur et sa bienveillance, en fait, qui persiste à l'appeler la fille de son peuple. La fille de son peuple. Un langage affectueux. Il ne dégénère pas dans un mépris sans limite. Il ne parle pas d'elle comme « Oh, la sale prostituée qui m'a trahi ». Il ne va pas aussi loin que d'utiliser un langage injurieux, de dire dans un langage qui serait familier et qui pourrait se comprendre à la lumière de ça, ça ne serait pas trop exagéré de dire « Oh, la sale pute !» Clairement. Clairement. Mais non, Dieu continue à dire « Là, la fille de mon peuple. La fille de mon peuple. » Dieu ne se réjouit pas du jugement de son peuple. Il le juge, certes, parce qu'il est juste et ne peut pas laisser le mal impuni. Mais il pleure sur son peuple qui meurt à cause de ses fautes. Plus loin dans la Bible, cet amour, il ira même plus loin. En Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme. Il vient visiter sa création, il vient au milieu de sa création, et sur la terre, Jésus, Dieu fait homme, lui aussi pleure. Pleure face au jugement terrible qui atteindra ceux qui le rejettent. En Luc, chapitre 19, au verset 41, donc le récit de Luc, c'est une personne qui a raconté la vie de Jésus. On voit au verset 41, Jésus, il va vers Jérusalem pour être crucifié. Il va vers Jérusalem pour être crucifié, et quand il approcha de la ville, quand il la vit, Jésus pleura sur elle. Jésus pleura sur elle. Jésus pleurait pas parce qu'il allait mourir. Non, il pleurait car il savait que un jugement terrible. Il savait qu'il allait être rejeté et il savait qu'ensuite un jugement s'en suivrait. Pourtant, Jésus, il déteste le péché. Il déteste le péché et pourtant il est ému de compassion. Un peu plus tard, alors que Jésus, il porte sa croix, il est sur le point d'être crucifié. Il a été violemment fouetté. Il a été insulté, on se moque de lui, il est en route vers sa mort, injustement. Et là, il y a quelques femmes qui se lamentent sur lui. C'est tout à fait légitime. Et qu'est-ce que Jésus leur répond? On voit ça en Luc, verset 23, donc chapitre 23, à partir du verset 28. Jésus, hop. Excusez-moi. Chapitre 23, à partir du verset 28. Donc il y a des femmes qui se lamentent sur Jésus, c'est tout à fait justifié. Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Il se tourna vers elles et dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Puis continue avec un mot d'explication. Même dans cette situation intense d'injustice envers lui, Jésus, il est quoi? Il est à penser aux autres. Il est rempli de compassion pour ceux qui se perdent et se disent « Mais non, moi, ok. Mais je pense à vous. Je pense à vous qui allez, voilà, à cause de ce que vous avez fait, vous allez être jugés. » Et c'est ce qui s'est passé en l'an 70 de notre ère. Jérusalem a été détruit. Les Juifs ont été dispersés parmi les nations. On voit Jésus qui remplit de compassion, même dans sa souffrance. Enfin, sur la croix, Jésus souffre. Sur la croix crucifié, alors que lui ne méritait pas de souffrir, il prend sur lui la condamnation de beaucoup, afin de leur permettre d'être pardonnés, de ne pas subir ce jugement de cette séparation d'envers Dieu, de permettre ça à ceux qui se tourneraient vers Dieu pour dire « Non, je reconnais mon tort ». Ainsi, quand Jésus meurt sur la croix, cette compassion, on la voit étendue au plus haut point. On voit la même compassion qu'il y a dans le texte, mais se manifestant en action concrète. Pas juste il pleure. Non, il vient et il souffre. Il souffre pour eux qui ne le méritaient pas. Dieu souffrait de la mort de son peuple, de la mort de ses créatures, au point qu'il le prend à cœur, au point de par pure bonté, s'abaisser à venir et mourir pour elle. Son amour, sa compassion, sa bonté sont grandes. Et ainsi, face à tout ça, face à la compassion de Dieu, la grandeur de son amour, on est appelé à nous laisser saisir par ça, nous laisser convaincre par lui. Nous laisser aller à suivre sa sagesse, à suivre sa bonté, contempler combien il est beau, combien il est grand, combien il est sage. Nous sommes rappelés à être saisis de son amour et revenir à lui. Revenir à lui. Demander pardon, c'est pas facile. C'est pas facile. Faire face à nos fautes et notre culpabilité dans tous les domaines de la vie, c'est pas facile. Et quand plus notre culpabilité est grande, moins c'est facile. Donc c'est pas simple. Mais sachons que c'est un Dieu qui est rempli de compassion, rempli de bonté, qui nous appelle à lui. Pour ceux qui, peut-être, se seraient déjà tournés vers Dieu, qui se seraient déjà dit « Non, je reconnais mon tort. Je veux m'attacher à Dieu, je veux le connaître. » Et bien pour nous, c'est davantage de faire face à la réalité du jugement de Dieu, au fait que beaucoup sont séparés de lui. C'est pas toujours facile, on peut aussi se dire « Ok, toucher les choses insensibles, se dire non, ça va. » Agir, mais penser à cela, agir en conséquence, c'est vivre par amour. C'est pas vivre par amour que d'être dans le déni. Être annié du même amour que Dieu, qui aurait pu abandonner les humains. Dieu aurait pu se dire, non, c'est fini, c'est trop tard, moi je vais regarder des séries, moi je vais pas venir sur Terre pour mourir, je vais pas sauver mes créatures, elles sont pourries. Elles sont, ouais ça va, c'est pas ça, mais non. Non, il aurait pu être loin, mais non, il a été rempli de compassion. Est-ce qu'on partage la même peine que Jésus ? Est-ce qu'on partage la même peine que Jésus face au monde ? Est-ce qu'on a les mêmes yeux que lui pour voir le monde ? Aimons-nous comme nous devons aimer. Pleurons-nous quand nous devons pleurer. Quand vous imaginez Dieu, comment est-ce que nous l'imaginons ? Est-ce que nous l'imaginons assis sur son trône, au ciel, et puis il est là, il regarde le monde comme si c'était le Tour de France. Il regarde, il dit « Ah, c'est intéressant ce qui se passe là, ah, c'est intéressant », et puis il repart ailleurs. Et puis il repense, ah, t'as, c'est bonne action là. Est-ce que Dieu est comme ça? Ou est-ce qu'on imagine plutôt Dieu en train de pleurer? Dieu en train de pleurer, à être ému de compassion pour le monde. Certes, Dieu ne fait pas que pleurer, il n'est pas que pleurer et compassion, mais il a cet aspect-là. Ainsi, si Dieu pleure pour le monde, qui sommes-nous pour ne pas pleurer face à ces réalités? Qui sommes-nous pour ne pas pleurer face à ces réalités? Ainsi, on est appelé à, et là c'est la toute fin de ce message, on est appelé à se laisser attirer par la beauté de Dieu, par la grandeur de son amour, par sa compassion, sa bonté, lui qui est juste, juge, à nous attacher à lui et voir les choses plus comme lui. À être davantage rempli de compassion, davantage faire face aux choses, même quand elles sont difficiles. Et pour terminer, je vais lire le verset 23, on arrive à la toute fin, verset 23 du chapitre 8, qui rappelle ces paroles tendres, pleines de douceur de Dieu, sur cela. Donc chapitre 8, verset 23, sur les pleurs de Dieu. Et puis on terminera en priant. Donc Jérémie chapitre 8, verset 23. « Si seulement ma tête était remplie d'eau, et mes yeux une source de larmes, je pourrais pleurer nuit et jour les morts de la fille de mon peuple. Si seulement ma tête était remplie d'eau et mes yeux une source de larmes, alors je pourrais pleurer nuit et jour les morts de la fille de mon peuple. » Prions.